Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble. Aujourd'hui, je suis avec Alicia qui est bénévole pour l'association Les Impactrices, qui est une association parlant d'écoféminisme, enfin qui est engagée dans cette cause. Donc Alicia nous expliquera tout à l'heure ce que c'est, mais tout d'abord, bonjour Alicia, comment ça va ?
Bonjour Ella, ça va bien, merci et bonjour à toutes et tous et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui.
Eh bien, nous aussi, on est ravis de faire une émission avec toi. Donc, je pense qu'on peut l'entendre. Tu es en visio parce que tu es depuis Paris. Donc,
oui.
Nous sommes, nous, à Grenoble. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux commencer un petit peu par te présenter et nous dire quel est ton rôle au sein de cette association ?
Avec plaisir. Je suis Alicia, je suis bénévole au sein de l'association Les Impactrices depuis un bout de temps maintenant, depuis 2018, et membre du conseil d'administration depuis 2022. Donc l'association a pas mal évolué, et ce qui explique aussi les mouvements que j'ai pu avoir au sein de l'association. Mais c'est une association qui me tient extrêmement à cœur, et en fait, en 2018, j'avais l'envie de m'engager, et je ne savais pas forcément où m'engager ou dans quoi m'engager, et j'ai parlé avec une des cofondatrices qui m'a dit mais j'ai un super projet pour toi, si tu veux rejoins-nous, on monte une association, et donc voilà, depuis j'ai pas quitté le nid des impactrices, mais j'ai beaucoup évolué.
Donc on peut dire que tu es un peu une pionnière dans cette association, et donc je voulais te demander justement, toi tu as un peu dit ce qui t'a poussé à t'engager, mais comment tu as découvert l'écoféminisme ? Est-ce que tu l'as découvert en t'engageant dans cette association, ou est-ce que tu connaissais déjà cette lutte avant ?
Non, je connaissais pas du tout l'écoféminisme, on est en 2018, donc à ce moment-là, je pense qu'on parlait plus de développement durable, on commençait à parler de transition écologique, mais le sujet, vraiment la dimension sociale de la transition écologique, pour le coup, moi, je n'en savais rien, et je pense qu'on va dire que le grand public était moins familiarisé à cet enjeu-là, et donc l'écoféminisme en soi, on le voyait moins apparaître dans les conférences, par exemple, donc c'est vraiment les impactrices qui m'ont fait prendre conscience, en fait, de tous les enjeux quand on soulève un peu le tapis de ce qu'il y a finalement quand on veut vraiment adresser la question de la transition écologique, ce que ça veut dire derrière, quoi. Il y a beaucoup beaucoup d'enjeux qui je veux pas affoler les foules, mais ouais, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, quoi.
Oui, donc justement, on parle de ce terme. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est l'écoféminisme ? Parce que c'est pas connu de tous.
C'est vrai que c'est un sujet qui peut à la fois paraître simple, parce que dans écoféminisme, il y a éco comme écologie, qui fait référence à la terre, le vivre ensemble, l'habitat, mais aussi le mot féminisme. Donc là, on est sur finalement l'égalité des genres. Et on pourrait se dire que le lien entre les deux, c'est faire de l'écologie en prenant en compte l'égalité des genres. Mais finalement, nous, on va plus profondément dans cette réflexion, et on se dit qu'au-delà de la contraction de ces deux termes, l'écoféminisme, c'est vraiment le fait de montrer que la destruction de l'environnement et l'oppression des femmes et des minorités, et ça on pourra y revenir, repose sur un même système de violence qui est aussi de domination, hein, qui est celui du capitalisme patriarcal et de l'oppression du vivant. Donc ça, c'est un peu ce qu'on essaye de montrer, que finalement, à la croisée des luttes de l'écologie, il est important aussi de prendre en considération finalement ce système d'exploitation des ressources, mais aussi d'exploitation des femmes et des minorités. Donc ce mot-là, il est fort, et j'ai conscience qu'il peut paraître fort, mais on pourra un peu le décortiquer ensemble tranquillement.
Oui, je pense que ça demande beaucoup de décortiquer, quoi, ce terme. Et donc, une véritable conversation. L'émergence des luttes, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a plusieurs visions de l'écoféminisme. Vous, chez les Impactrices, c'est quoi votre vision de cette lutte, si je puis dire ?
Pour nous, c'est en fait de prendre finalement le sujet de l'écoféminisme, ça permet finalement d'avoir un outil de compréhension des enjeux écologiques qui viennent s'adresser à la racine du problème de l'urgence écologique. Donc c'est un peu ce triptyque que je vous ai énoncé tout à l'heure, patriarcat, capitalisme et colonialisme, et essayer d'apporter une réponse vraiment qui soit globale et qui soit basée sur le partage, l'équité et le mieux vivre ensemble, entre humains aussi, et en phase avec les limites planétaires aussi de notre belle planète Terre. Après, aujourd'hui, donc, on en parle de plus en plus, mais c'est un sujet qui ne remonte pas, qui n'est pas si récent, enfin, qui a un peu de bouteille, parce que ça a été théorisé par Françoise Daubonne en 1974, donc ça remonte. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est un sujet qui existait déjà. En fait, c'était des mouvements qui étaient déjà existants, et c'est important de le rappeler. On a par exemple le mouvement Chipko en Inde, qui a été créé en 73, avec la figure très populaire de l'écoféminisme, qui est Vandana Shiva.
Oui, et donc, concrètement, comment elles sont liées? Enfin, quel est le lien entre l'oppression des femmes et la destruction de la nature?
Très bonne question. Alors, peut-être je peux prendre un peu le fil rouge de comment on en arrive à cette conclusion. Nous, en fait, côté Impactrice, on a été un peu frappés par certains chiffres. On a pris connaissance d'un chiffre de UN Women qui dit que les femmes ont 5 à 14 fois plus de risques d'être impactées par un désastre climatique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de catastrophe naturelle, un ouragan, un cyclone, un tsunami, comme on en a connu récemment et comme on va être amené à en connaître de plus en plus avec l'accélération des événements climatiques dits extrêmes, avec le changement climatique, que les femmes ont plus de risques d'être exposées et voire de mourir. Donc ça, c'est le premier constat. Pourquoi les femmes? Finalement, pourquoi les femmes plus que les hommes? C'est vrai qu'on pourrait se dire légitimement pourquoi le fait d'être femme m'amènerait à avoir plus de risques que les hommes? Eh bien, on va dire que c'est la résultante de tout un tas, finalement, de codes sociaux, éthiques, religieux qui ont été attribués depuis des années et des années, qui font que les femmes sont mises en situation de vulnérabilité. C'est important d'avoir la notion en tête que c'est pas que les femmes sont vulnérables, c'est qu'elles sont mises en situation de vulnérabilité. Il y a par exemple un super podcast que je ne peux que vous recommander qui s'appelle de mémoire « Un jour, la Terre s'ouvre », qui a analysé plus de 200 catastrophes naturelles et qui démontre en fait que la condition des femmes est fortement liée au climat, et notamment parce que aujourd'hui, et donc ça j'avais lu un article d'Oxfam qui dit que les femmes, je crois que c'est 60%, 60 à 70% de femmes sont en situation de précarité. Donc ça veut dire aussi quand on est en situation de précarité qu'on a moins de capacité à se protéger. Donc forcément, en cas d'événements climatiques extrêmes, on n'a peut-être pas un abri où se mettre. Donc c'est un exemple qui montre que l'on peut être plus exposé à ce risque-là. Aussi, les femmes sont aussi plus dépendantes, enfin, du moins elles sont. Alors, en France, c'est peut-être différent, mais dans le monde, en fait, les femmes sont principalement en charge d'aller chercher les ressources, par exemple l'eau. Et donc, ce qui se passe avec le changement climatique, donc le chiffre, c'est 60 à 80% de la production vivrière dans le monde. Donc, ce qui se passe avec le changement climatique, c'est que, par exemple, si ce sont elles qui sont en charge d'aller chercher l'eau, comme les sources d'eau vont se tarir de plus en plus, elles doivent aller chercher l'eau de plus en plus loin. Et donc, par ces chemins de plus en plus longs, elles sont aussi exposées à d'autres risques, comme se faire kidnapper sur le chemin.
Oui, donc finalement, un lien tout à fait direct. Cet exemple est très concret, ce dernier exemple, pour nous montrer oui. Ça. Et donc, vous, chez les Impactrices, quelles actions vous mettez en place au sein de votre association pour lutter contre toutes ces formes d'oppression? Je pense que vous en mettez beaucoup.
Ouais, on aimerait faire tout un tas de choses pour les accompagner. Peut-être je peux repartir un peu de d'où on vient. Nous, les Impactrices, au départ, on était réellement... Quand l'association s'est mise sur pied, donc on était vraiment sur la notion de femmes et climat. Donc c'était vraiment accompagner les leaderships, les leaderuses qui mettent en place des solutions pour la transition écologique. Et donc vraiment, on était sur un public d'entrepreneurs au féminin, d'essayer de les outiller, de les accompagner, de les mettre en réseau, de s'inspirer au travers de conférences, mais aussi avec cette y avait déjà à ce moment-là vraiment à l'origine cet attachement aux valeurs de la diversité et de la représentativité. Et donc, c'est notamment bien porté par une des cofondatrices qui est Souba Moharan Brunel et qui joue un rôle assez important aussi hein, pour porter ces sujets de l'importance de la diversité dans la transition écologique. Et donc, petit à petit, on arrive en 2020 où face à l'urgence climatique, on sort de la crise Covid, on se dit, bon, là, il faut vraiment qu'on renforce notre vision et qu'on renforce nos messages. Et c'est là où on a vraiment assumé, parce qu'avant, c'était plutôt, on va dire, en toile de fond, mais ce n'était pas autant affirmé, pour des raisons que je pourrais repréciser après. Là, on s'est dit, bon, vraiment, on le met dans notre vision, c'est vraiment femme, climat et diversité. Et d'ailleurs, je parle de climat, mais c'est l'écologie en sens large. Hein. C'est juste que, on va dire que climat, c'est assez mainstream, mais et c'est plus court que transition écologique.
Oui.
Et donc, pour répondre à ta question, excuse-moi,
pas de problème.
Que faisons-nous ? Donc voilà, ça c'est un peu sur comment on a un peu construit le fil rouge de l'association. Et donc aujourd'hui, très concrètement, face au constat, face à l'urgence, aussi à la montée de l'extrême droite en France, on s'est vraiment renforcé dans cette vision qui nous amène à avoir différents types d'activités. On a une activité qui est vraiment pour visibiliser les femmes actrices de la transition écologique dans leur diversité. Et donc, pour ça, on a un média collaboratif que je vous invite à aller consulter sur notre site internet, petit moment pub. Et ce média collaboratif, il permet finalement aux femmes de pouvoir s'exprimer, de faire connaître leur projet, de parler de quelque chose dans lequel elles sont influentes, expertes. On a parlé du sujet de la finance, de la tech, et ça, vous trouverez des blogs, des articles de blog à ce niveau-là, vraiment pour qu'elles puissent être visibilisées et dans un cercle de confiance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on va par exemple sur LinkedIn, je ne sais pas si certains d'entre vous êtes sur LinkedIn, mais c'est vrai que en tant que femme, on peut être facilement exposée à un système à des messages un peu violents quand on prend la parole, quand on poste un message, et encore plus en tant que femme racisée, c'est-à-dire une femme non blanche. On est encore plus exposée, et ça, c'est des choses que l'on a vécues directement dans notre association, des formes de violence par message sur LinkedIn dès lors qu'on prend la parole. Et donc, c'est pour ça qu'on propose d'aller sur le blog pour pouvoir prendre la parole dans un cadre bienveillant et sécurisé. Donc, on a aussi, pardon.
Ce blog, lui, s'inscrit dans votre média collaboratif, c'est ça ? Ou c'est
oui,
deux choses ?
Complètement. Oui, complètement. Okay. Non, c'est complètement ça. Et la vocation de ce blog, c'est aussi au fur et à mesure d'y poster toutes les ressources qu'on a, comme par exemple des podcasts qu'a pu faire Souba et les autres membres de l'association, pour vraiment avoir cette bibliothèque de ressources et de partage qui vise à inspirer notre communauté.
Ok, et donc parmi vos actions, vous avez aussi la fresque de l'écoféminisme, qui est
absolument
très originale, parce qu'on connaît beaucoup la fresque du climat, on l'entend énormément, mais
ouais.
Enfin, c'est quelque chose, moi, qui m'a marquée quand j'ai vu, quand je suis allée voir votre site pour la première fois. Donc,
ouais.
En quoi elle consiste déjà, cette fresque, et à qui elle s'adresse ?
Alors, la fresque, déjà, c'est le mot fresque, c'est pour reprendre, peut-être vous connaissez la fresque du climat, donc c'est un peu pour, parce que c'est un mot qui est aujourd'hui parlant, donc ça s'inscrit dans le même type d'outil, donc c'est réellement un atelier ludique qui permet de comprendre ce qu'est l'écoféminisme, ou du moins quels sont les constats qui nous amènent à l'écoféminisme. Donc c'est un outil qu'on a co-créé avec co-créé par les Impactrices et l'association GCC Climate. Donc on est deux à avoir un peu mis nos ressources et nos cellules grises à contribution pour aboutir à cet atelier qui a pour objectif de sensibiliser les individus et aussi les organisations aux enjeux de genre et de climat. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que donc c'est un atelier qui dure environ 3 heures. Donc c'est du temps, mais à la différence d'autres fresques, on est vraiment sur des moments de partage. C'est-à-dire que les cartes, comme les autres fresques, on va avoir des cartes qui nous amènent petit à petit à comprendre comment est le système, en quoi le système nous fait subir en tant qu'individu certaines répressions, certaines dominations, certaines oppressions, etc., etc. Mais tout ça, c'est enrichi par les partages des participants. Et donc, c'est pour ça qu'on a à cœur aussi de mettre en place un cadre qui soit réellement bienveillant et sécurisé pour s'assurer que tout le monde puisse prendre la parole en sécurité et pouvoir aussi partager leur propre vécu, parce que c'est ce qui fait réellement la richesse de la fresque. Et c'est d'en ressortir avec plein d'exemples qui nous permettent de comprendre finalement quelle est la racine du problème et quelle solution on peut mettre en place face à tous ces constats. Et c'est vrai que c'est assez dense.
Et donc, justement, tu as parlé des participants. Elle est reçue comment lorsque vous la présentez en public, cette fresque? Quelle est la réaction des participants, des participants?
Je ne vais pas être très objective pour y répondre. Franchement, je suis animatrice de cette fresque. On est plusieurs à être animatrices. On l'a lancée assez récemment. Je trouve ça assez bouleversant et assez précieux de voir en fait comment on accompagne petit à petit les participants, participantes à dérouler le fil de pensée de l'écoféminisme et à quel point aussi, moi je suis pleine de gratitude pour le fait qu'ils soient réellement dans le partage et qu'ils osent partager finalement leur vécu. On l'a fait dans des publics jeunes, moins jeunes, étudiants, actifs, avec des femmes et des hommes en mixité et en diversité. Et parfois, c'est fort aussi de voir des déclics en fait. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est de voir des yeux qui s'arrondissent en mode « Ah ouais, j'en avais pas conscience ».
Ouais, donc finalement, ça change aussi le rapport des personnes à l'écologie ou au féminisme
À l'écoféminisme, tout... oui. Ouais, on espère.
C'est ça.
On espère, oui, complètement.
Et pour continuer l'émission, je propose de faire une petite pause musicale.
There's gotta be some hope. There's gotta be some hope. There's gotta be some way for you to send your dogs away and to leave the land alone. Somewhere in your heart you'll find we're fighting for our right to keep the future bright and protect the ones we love. And the river is our sisters and our brothers. Camping out for each other. We are stronger when we band together, and we're standing up for the water. Don't poison the future away. You've gotta have a soul, Mother. Protects us all. If you treat her with disrespect, then what message have you left for your children and their home? In the river is our sisters and our brothers. Camping out for each other. We are stronger when we band together, and we're standing up for the water. Don't poison the future away. How can you take and not appreciate the soil? Don't let this black snake contaminate our drinking water. This is for our sons and daughters. In the river is our sisters and our brothers. We are camping out for each other. We are stronger when we band together, and we're standing up for the water. Don't poison the future away.
Et c'était In the River, a protest song de Rey Zaragoza. J'espère que je prononce bien. Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et donc vous venez d'écouter cette musique qui est faite par une femme et qui parle de lutte environnementale. Donc nous sommes en plein dans la thématique de l'écoféminisme, thématique dont on parle aujourd'hui avec Alicia de l'association écoféministe Les Impactrices. Cette thématique qui prend de plus en plus de place dans la société, mais donc je voulais te demander, Alicia, quelle place aujourd'hui occupe cette lutte écoféministe dans notre société ? Question très large.
Donc c'est ma perception des choses plus que une vision statistique, mais c'est vrai que on a vu que le sujet commence à prendre de l'ampleur. En tout cas, il se fait une place montante. Je pense aussi au vu des constats, au fait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus nécessaire en fait d'avoir cette vision intégrée et systémique des différents enjeux, et qu'on peut plus parler de transition écologique sans se poser la question des droits humains, par exemple, sans se poser plein d'autres questions. Donc le sujet monte et on voit que d'autres associations aussi, alors là j'ai un prisme très français, mais d'autres associations pour le coup commencent aussi à proposer des conférences sur ces sujets d'écoféminisme, un autre terme que j'ai pas encore prononcé, mais de racisme environnemental aussi, hein, qui est de montrer que finalement que le changement climatique peut aussi être encore plus subi pour les populations qui sont victimes de racisme. Mais ça, on pourra le décortiquer, c'est encore un autre sujet, mais que l'on englobe, nous, côté impactrice, dans cette vision de l'écoféminisme. Et j'en profite aussi pour glisser que, de la même manière qu'il y a plein de formes de féminisme possibles, on suppose qu'il y a plein de formes aussi d'écoféminisme possibles. En tout cas, celui dont on parle aujourd'hui, c'est réellement la vision des impactrices. Donc voilà, le sujet commence à monter. Après, il n'empêche pas que ça reste compliqué de se faire une place, par exemple, pour l'accès aux subventions, etc. Comme on est à la croisée des chemins entre différentes luttes, on n'est pas que sur le climat ou on n'est pas que sur le féminisme. Du coup, on est à la croisée des chemins. Donc, c'est un peu parfois compliqué pour certaines structures de se dire, on ne sait pas trop si on peut ou pas vous subventionner. Est-ce que vous répondez ou pas à telle catégorie ? En France, c'est encore un sujet montant, mais il me semble que dans les pays anglo-saxons, pour le coup, et en tout cas états-uniens, pour le coup, le sujet est pas mal présent.
Ouais. Donc toi, justement, vu que ça fait pas mal de temps maintenant que tu es engagée dans ce combat, tu as vu une réelle évolution
Oui, je pense que on est heureuse de se dire qu'on contribue à visibiliser et à faire monter le sujet de l'écoféminisme. Je pense que nos cofondatrices et notamment Souba Moharen Brunel y est pour beaucoup de par les prises de parole qu'elle fait. Et donc c'est aussi se montrer, ce qui n'est pas toujours chose simple aussi, hein, en tant que femme, et qui plus est, donc Souba est d'origine indienne. Donc c'est parfois un peu des voilà. On n'ose pas toujours se montrer, et donc c'est un pas d'autant plus important que de le faire, et c'est de plus en plus demandé. Et c'est vrai qu'on est heureuse de voir qu'on a de plus en plus de sollicitations aussi pour parler de ces sujets. C'est vrai qu'il y a 5 ans, on ne nous aurait peut-être pas proposé de parler d'écoféminisme dans une radio comme Apérophonie, par exemple. Donc c'est chouette de voir que ça monte et que de plus en plus de monde nous sollicite, que ce soit pour suivre la fresque de l'écoféminisme ou que ce soit pour avoir des prises de parole de la part des cofondatrices. Donc c'est un sujet qui est de plus en plus évoqué. On a des documentaires, je pense que Malcolm Ferdinand aussi a pas mal contribué en parlant de racisme environnemental, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien lui. On a aussi une impactrice qui est super, qui s'appelle Canel et qui a fait un documentaire pour décoloniser l'écologie et qui parle justement des bananeraies aux Antilles avec le pesticide, le chlordécone. Donc on voit que ça commence à prendre de l'ampleur.
Oui, et justement, bah, ça tombe bien, tu parles donc des Antilles. ça, c'est une question qui m'est venue avant quand tu parlais aussi des femmes qui cherchent l'eau. C'est plutôt une lutte qui s'installe quand on essaie d'y penser et de la penser concrètement, comment elle s'inscrit dans les territoires. C'est plutôt une lutte qui est présente dans les pays du Sud, enfin, oui, peut-être comme ça. Est-ce que tu vois que toi, cette discrimination, c'est une discrimination qui est plus appuyée dans certains pays plutôt que d'autres ?
On pourrait le penser. On pourrait se dire, effectivement, c'est plus une affaire des pays du Sud parce qu'ils sont plus sujets aujourd'hui aux conséquences du changement climatique. Et c'est vrai, aujourd'hui, il y a quand même une grosse inégalité entre les émissions émises, les pollutions émises et qui en paye aujourd'hui les conséquences. Mais on le voit aussi en France. En France, on a aujourd'hui déjà les conséquences du changement climatique qui viennent impacter plus fortement les populations dites vulnérables. Donc, on l'a dit, les femmes en situation de précarité, les personnes dans les, par exemple, un exemple très très concret, c'est les personnes qui vivent en banlieue où justement les infrastructures ne sont pas faites pour être accueillantes quand il y a des canicules. On le sait, on manque d'îlots, d'îlots de fraîcheur, je crois qu'on appelle... Non, îlots végétalisés, pardon. Ce qui fait que, par exemple, en 2003, peut-être avez-vous connu cette canicule. Moi, je l'ai connue, j'avais 7 ans. le département qui a été le plus touché par le taux de mortalité, c'est le département de la Seine-Saint-Denis, dans le 93. On est en France et aujourd'hui, on a des inégalités au niveau des infrastructures qui font que certaines populations vivent plus durement les conséquences du changement climatique et sont aussi plus exposées par ailleurs aux différentes pollutions. Donc je préférais ne pas rester sur ce type d'exemple, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu ça aussi nos sources. Mais c'est vrai qu'on voit qu'aux abords des axes routiers, aux abords des usines, on aura principalement les quartiers défavorisés. Et donc, ce sont eux qui sont doublement, un peu cette double peine d'être à la fois exposés aux pollutions et en plus de ça, finalement, d'être dans une situation de précarité.
Oui, donc finalement, c'est un bel exemple de montrer que ça se joue aussi concrètement en France et pas seulement
tout à fait.
À l'étranger. Donc, de montrer la vision aussi intersectionnelle de ce combat. Qui touche finalement à plusieurs combats. Toi, aujourd'hui, parce que c'est un combat qui est plus présent dans la sphère, dans la société civile, j'ai envie de dire, et pas très présent en politique. Donc, pourquoi tu dirais que l'écoféminisme, il n'est pas très présent aujourd'hui en politique ?
C'est une bonne question. Je pense que déjà, parler de féminisme en politique, c'est pas très bien vu. J'ai le sentiment qu'il y a un peu des a priori et que c'est très connoté finalement ce mot-là. Donc parler d'écoféminisme ou de manière très pragmatique, on reprend ce mot-là, je pense qu'il peut subir un peu de ces a priori qui font que c'est compliqué de s'affirmer sur ce sujet. Et moi je le vois autour de moi, dès que ce mot-là, je l'utilise toujours avec prudence. Et pourtant, j'aimerais beaucoup pouvoir l'assumer et m'affirmer là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cet a priori tout de suite féminisme. Aujourd'hui, malheureusement, c'est encore... Enfin, je ne sais pas quel est votre a priori sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on sait qu'on parle d'égalité de genre. Mais finalement, avec le rôle que jouent aussi les médias, a su représenter des actes très, très militants, qui n'est pas forcément, nous, notre vision du féminisme, ça porte un peu ça connote un peu les images que peuvent avoir le grand public. Donc peut-être que c'est pour ça, mais c'est encore une fois, ça n'engage que moi. c'est ma vision là-dessus qui fait que peut-être qu'aujourd'hui, l'écoféminisme en soi souffre un peu peut-être de ses a priori.
Oui, c'est ça, envisager le féminisme au-delà de la simple égalité des genres, ça connote tout de suite, ça donne une autre teinte, quoi, finalement. Et donc, oui, je voulais te demander, toi, qu'est-ce qui t'a marqué ou te marque dans ton expérience chez les impactrices ?
Moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment ce sujet de l'importance de la représentativité et de finalement donner la parole aux premières personnes impactées. Si je vous demande, par exemple, de réfléchir à la dernière conférence que vous avez vue, de repenser de penser à une CEO comme ça, un CEO, une CEO, de penser à une personnalité écologique. Quelle est la personne qui vous vient en tête ? Ou quelles sont les personnes qui vous viennent en tête ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, ça va dans le bon sens, évidemment. On fait de plus en plus attention à ça. Vous n'êtes pas obligé de me dire à qui vous avez pensé. Mais nous, quand on pose ces questions-là autour de nous, lors d'ateliers, lors de prises de parole, on a un quiz qu'on aime bien faire aussi, et on pose cette question-là, très souvent, ce sont des hommes qui sont cités. Les conférences que les personnes ont vues, ce sont avec un panel à majorité composé d'hommes. Le CEO nommé, c'est un homme. La personnalité engagée dans l'écologie, c'est un homme qui revient. Et donc, je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas bien. C'est très bien qu'il y ait des hommes sur ces sujets-là, mais il faut penser à cette égalité et cette parité, finalement, dans à qui on donne la parole. Donc, c'est réellement important, finalement, d'avoir cette parité, cette mixité, mais aussi cette diversité pour s'assurer que, finalement, les prises de parole correspondent aussi avec la réalité des vécus. Et encore plus, de se dire, en tant que personne qui vit ces sujets-là, c'est d'autant plus légitime de prendre la parole sur ces sujets-là, si on est confortable avec l'idée de prendre la parole, évidemment. Enfin, on ne va pas obliger non plus les personnes à parler si elles ne le souhaitent pas. Mais ce que ça m'a amené à revoir dans ma façon d'être engagée, c'est que parfois, quand c'est possible, qu'il y a des prises de parole, des propositions ou autres, d'essayer de dire « tiens, à une autre personne qui porte un sujet, est-ce que tu ne veux pas prendre toi la parole ?» Et donc, c'est de prendre un peu ce recul. Et je trouve que c'est peut-être pas quelque chose que j'aurais eu si je ne connaissais pas finalement les engagements et les valeurs des impactrices.
Mais finalement, ça t'a permis de te rendre compte de ça. Bah oui, c'est finalement aussi la question de la représentativité des femmes en science.
Exactement.
Oui, parce que enfin, du coup, est-ce que tu as quelques chiffres par rapport à ça à nous donner sur la représentativité justement des femmes dans les sciences et dans l'écologie plus généralement ?
Y a un chiffre qu'on aime bien citer. Alors, il faudra peut-être que je l'actualise, mais parce que ce chiffre date de 2021 et j'espère que ça a bougé pareil dans le bon sens. Mais par exemple, c'est celui du secteur de l'ESS. Donc, l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. C'est un secteur qui est à majorité composé de femmes salariées. C'est 68%, donc c'est énorme. Sauf que quand on monte dans les sphères de décision, c'est-à-dire quel est le pourcentage de femmes qui occupent un poste de direction, qui sont cadres, on tombe à 13%. Donc ça montre bien que finalement, le plafond de verre, vert, V-E-R-T, existe également, même dans les sphères dites écolo. Donc ça montre bien que si on pense pas, si on revient sur notre racine du problème patriarcat, capitalisme, colonialisme, si on se dit là on est dans l'écologie mais qu'on n'englobe pas qu'il y a toujours ce plafond de verre existant, les mêmes oppressions vont toujours être viables finalement, elles vont pas disparaître parce qu'on change de secteur. C'est la même chose. Sur le sujet de la représentativité, par exemple, moi je repense à cette image de la COP28, et pareil, j'aime bien la montrer en photo parce que je trouve qu'elle est assez parlante, où vous voyez tous les dirigeants. Donc COP28, on est bien sur des sujets de climat, hein, on est d'accord. C'est la Conference of Parties pour le climat. On a 133 dirigeants et seulement 15 femmes. Donc pour moi, c'est édifiant parce qu'on vient parler de sujet climat, on vient parler de comment on fait, quelles mesures on met en place, quels traités on négocie, etc. pour un monde plus viable pour tout le monde. Et où sont les femmes ?
Oui.
Et après, ça, j'imagine que c'est vrai pour beaucoup de choses par ailleurs.
Oui, c'est sûr, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans d'autres domaines. Mais merci pour ces chiffres. En tout cas, ça permet de clarifier et de bien montrer ça. On va arriver à la fin. Mais je voulais te demander d'abord, toi, quelles sont tes références à conseiller à nos auditeurs et auditrices qui souhaiteraient s'informer sur ce sujet ? Peut-être que tu as des livres, des films, des podcasts ?
Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller sur notre site internet. Effectivement, on a une boîte à ressources dans laquelle vous allez retrouver différentes choses. Un dictionnaire sur finalement ce qu'on entend par écoféminisme, et vous retrouverez un peu tous les mots décortiqués, ceux qu'on a pu rapidement évoquer ensemble dans cet entretien, mais aussi des guides pratiques et autres. Et donc, ça, ce serait ma première ressource, c'est aller sur notre site internet. Il est super bien fait. On a des impactrices génialissimes qui ont mis de l'or et des paillettes dans ce site internet. Après, alors il y a celles que je vous ai déjà citées, donc je ne vais pas les répéter, hein, mais je ne sais plus si on avait parlé de l'intersectionnalité, mais en tout cas, vous avez le bouquin « Pour comprendre le concept de l'intersectionnalité des luttes » de Kimberly Crenshaw, qui s'appelle « Intersectionnalité » pour le coup. Donc ça, c'est un bon préambule, je pense, pour comprendre justement l'intersection entre différentes oppressions et discriminations qui peuvent s'accumuler. Le podcast « L'injustice climatique et un jour la Terre s'ouvre », le podcast « À l'intersection » d'Anas Daïf, qui est disponible de mémoire sur Spotify. Et évidemment, donc, c'était bien « Une écologie décoloniale » de Malcolm Ferdinand, pour vraiment tout comprendre tous ces concepts qui sont forts. Et j'insiste là-dessus parce que autant l'écoféminisme, le sujet femme-climat, ça on le voit monter, autant ajouter la brique aussi de se reposer la question aussi de bah, tout l'historique, tout ce que... toutes les traces laissées par le colonialisme qui sont encore aujourd'hui présentes, c'est important d'en parler et peut-être que ça, on en manque. On manque encore d'ouverture, de conférences ou autres à ce sujet où c'est peut-être un peu moins, peut-être un peu plus tabou en France. Donc, c'est important d'en parler. Après, il y a le bouquin aussi. Donc, on parlait tout à l'heure un peu des banlieues. Donc, l'importance d'avoir des politiques publiques inclusives avec « Pour une écologie pirate » de Fatima Ouassak. Est-ce que ça fait assez de ressources ou je continue?
Je pense que c'est déjà une bonne introduction. Mais justement, bah, t'as parlé du décolonialisme. Quel lien a le décolonialisme avec l'écoféminisme? C'est vrai qu'on n'en a peut-être pas assez parlé.
Absolument. Et pourtant, il y a un vrai... Un vrai lien parce que donc aujourd'hui, ce que je disais un peu maladroitement, c'est qu'on a toujours un peu les traces de la domination coloniale et qu'on la voit encore aujourd'hui avec le néocolonialisme. Donc, c'est pour dénoncer finalement le maintien de cette domination coloniale après l'indépendance sous des formes un peu détournées. Et donc, ça va être notamment le cas quand il va s'agir de l'exploitation des ressources minières, par exemple, pour la fabrication typiquement de batteries, etc., où on va venir justement continuer à exploiter les ressources d'un pays. Et donc on voit que finalement, cette oppression-là, elle est toujours présente.
Oui, et ce colonialisme, il se voit aussi, ce néocolonialisme, il se voit aussi un petit peu avec tout ce qui s'est passé à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, enfin, avec nos territoires d'outre-mer.
Absolument. Absolument. Et le lien avec l'écologie, si on essaye de le faire, même si c'est très théorique et il faut prendre de la hauteur avec tout ça, mais c'est sur le fait que ces minerais qu'on utilise dans l'exemple qu'on se donnait précédemment, ils sont nécessaires aussi pour des biens technologiques, pour la transition écologique. Mais sauf que, du coup, si on raisonne comme ça, on exclut complètement une partie de la racine du problème, qui est l'exploitation des ressources dans un pays autre.
Oui, merci beaucoup. Du coup, tu nous as bien expliqué.
J'espère que c'est pas trop lourd. Mais, on essaye de prendre des pincettes à chaque fois pour l'amener doucement. Et donc, on sait que c'est des sujets vraiment pas simples.
Oui, c'est des sujets qui sont en plus assez théoriques encore parfois. Donc, c'est parfois Exactement. Compliqué de les rendre concrets. Mais en tout cas, vous le faites bien dans votre association. Déjà, vous avez les outils comme tu as énoncé précédemment qui sont sur votre site internet. Mais vous organisez aussi un festival annuel avec des conférences, des ateliers. Est-ce que vous avez déjà la date de ce festival et où il va se passer?
Alors, je peux faire un mini teasing qui est que le printemps des impactrices, ce sera peut-être pas au printemps. Voilà, ce sera peut-être à l'automne, mais voilà, on fait en fonction des possibilités. En tout cas, on a toujours à cœur de faire ce festival. Alors, c'est à Paris, à l'Académie du Climat. Et c'est important de porter ces sujets de l'écoféminisme et tout ce qu'on vient de se dire dans un lieu tel que l'Académie du Climat. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien bâtiment d'une des mairies de Paris. Donc, c'est un très beau bâtiment avec de très belles salles. Et donc, pour nous, ça veut dire beaucoup, finalement, d'avoir accès à ce type de bâtiment et de parler de ces sujets dans ces lieux-là. Et c'est important aussi pour amener les populations qui nous suivent, le public qui nous suit, à venir se rencontrer dans le centre de Paris.
Oui, ça vous donne de la visibilité et de la légitimité aussi, finalement.
C'est ça, c'est ça. Et puis c'est en plein centre de Paris, donc c'est pas quelque chose qui est relayé loin, qu'on ne veut pas voir, quoi. On est vraiment là, présente, au centre de Paris.
Trop bien, et ben, on a hâte de voir ça alors. Et comment est-ce qu'on peut vous rejoindre aussi dans votre association? Quel rôle on peut avoir aussi si on a envie de vous rejoindre dans votre association?
Alors, on est toujours preneuse de pépites, de personnes qui ont envie de contribuer à l'association. Donc, il faut savoir qu'on repose sur... on est principalement beaucoup de bénévoles et on a beaucoup de besoins plus... donc, communication, c'est faire connaître tout ce qu'on fait parce qu'on fait plein de choses et on a... Voilà, ça prend du temps de capitaliser sur les contenus qu'on a à proposer. Donc là-dessus, si des personnes se sentent l'envie, l'âme de faire rayonner l'association, qui n'hésite pas, qu'il ou elle n'hésite pas à nous contacter. Après, si vous souhaitez participer à la fresque, pareil, on a une page sur notre site internet. Alors, le site, parce que j'en parle, mais je n'ai pas donné le site, c'est lesimpactrices.org. Voilà, aussi simple que ça. Et vous verrez, il y a plein de... Il y a justement, vous pouvez nous contacter, vous avez une rubrique contact et vous pouvez préciser le type de sollicitation.
Et donc, est-ce qu'on est obligé d'être basé à Paris ou est-ce que vous travaillez aussi en distanciel, si je puis dire?
Non, au secours, pas du tout. Vous pouvez être où vous voulez, que vous soyez en France, pas en France. C'est ouvert à toutes et tous, femmes et hommes, je précise aussi. Évidemment, on est preneur d'alliés pour porter les sujets de l'écoféminisme. Donc, c'est ouvert et on essaye de plus en plus de proposer des contenus à distance aussi pour pouvoir toucher les personnes qui ne sont pas franciliens et franciliennes, parce qu'il n'y a pas de raison que tout se fasse qu'à Paris.
C'est très bien, en tout cas. Et, et petite question pour finir, un peu philosophique. pour toi, à quoi ça ressemblerait une société écoféministe? C'est très large.
Et ben, je crois que je ne me suis pas autorisée à y penser jusqu'ici. Mais dans mon idéal, je pense que c'est réussir à inclure toutes les populations, tous les différents publics, toutes les classes, tous les genres, toutes les supposées races, parce que malheureusement, c'est ce qui se dit encore aujourd'hui, autour de la même table et de réfléchir ensemble à des solutions qui soient viables, partagées, acceptables par toutes et tous. Et ça, c'est vraiment un souhait, parce que je pense que malheureusement, les formes de discrimination, d'oppression, elles sont encore réelles. Ah oui, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était les stigmates. Pardon. et de réussir à trouver des systèmes, que ce soit via l'intelligence collective, par exemple, et de réussir à construire ensemble ces visions partagées qui conviennent à un maximum d'entre nous, parce qu'on a toutes et tous des modes de vie différents, toutes et tous des façons de consommer, de se déplacer, qui sont différentes. Et on ne peut pas juste imposer une forme de politique environnementale. Il faut qu'elle soit vraiment... voilà, le mot, c'est partagé par toutes et tous. Donc, je pense que ça, j'aimerais bien. Et pour ça, il faut qu'on soit plus à aller aux conseils municipaux ou autres, à faire entendre nos voix et qu'on se sente aussi la légitimité et le courage d'oser faire entendre sa voix.
Voilà, donc finalement, aller vers un véritable vivre ensemble.
ouais, parce qu'il y a ça aussi, c'est sauver aussi l'humain qui est en nous, quoi. Voilà.
Et bah, c'est un très beau mot de la fin. Donc, merci beaucoup, Alicia. Je ne sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose ou non. Mais
voilà. Vous remercier pour, de nous avoir donné la parole, donner la parole aux impactrices. C'est précieux que des organisations comme les vôtres souhaitent nous prêter un micro.
Et bah, merci à vous, parce que pour nous, c'était très dur de trouver justement des assos qui étaient engagés dans cette lutte. Donc, merci. Et on remercie aujourd'hui Oscar qui était à la technique.
Merci Oscar.
Et c'était quoi? L'apérophonie! Ouais, mais c'était quoi? L'apérophonie! C'est quoi? L'apérophonie!
Quoi?
Sur Campus Grenoble! Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.